et le comité consultatif pour la clientèle judiciarisée adulte a commandé un sondage léger auprès des employeurs de la région puis de l'ensemble du Québec pour savoir, coudonc, dans ce contexte de pénurie de main-d'œuvre, est-ce que vous seriez encline comme entreprise à accepter de la clientèle judiciarisée? Une personne judiciarisée qui vient vous porter votre CV. Et on est beaucoup plus ouvert dans la région que la moyenne québécoise. 39 % des entreprises sondées ont dit oui à des niveaux différents, mais 39 % et 28 % pour le reste du Québec. Ça me semble quand même peu. Il y a d'autres données là-dedans qui sont intéressantes parce qu'on a 10 % de plus que le reste du Québec de besoin de main-d'œuvre.
Ceci expliquant peut-être cela.
87 % des répondants ont déclaré que leur décision pouvait être influencé par la nature de l'infraction commise.
Ah, totalement, je suis d'accord avec ça.
On dit aussi qu'il y a une proportion de répondants qui ont dit oui, mais pas en contact avec la clientèle. Donc, la perception des clients était bien importante. Mm-hmm. Et la dernière statistique, mais non la moindre, sais-tu combien il y a de personnes judiciarisées adultes au Québec en pourcentage?
Vous allez être surpris. Moi, je le sais.
C'est 14 %.
14 % des adultes 18 ans et plus ont été ou sont, là, tout dépendant de la manière dont on l'exprime, là, judiciarisés. J'ai été surpris de ce chiffre-là, mon chum.
Majoritairement des hommes.
Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas récupérables, au contraire. Mais c'est quand même un gros chiffre. Ça veut donc dire plus d'une personne sur 10.
On va aller rejoindre Daniel Benson, qui est un ex-détenu lui-même. Monsieur Benson, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, et vous?
Ça va très bien. Pour la petite histoire, quand on vous décrit comme un ex-détenu, une personne judiciarisée, quel a été votre parcours?
Ben, écoutez, moi, j'ai assassiné le conjoint de ma mère, qui est un homme violent. Donc, j'ai été condamné. J'avais un petit peu plus que 18 ans à la prison de la perpétuité. J'ai purgé 17 ans de pénitencier au total. Et par la suite, ben, je me suis réinséré. J'ai commencé à travailler, moi, le lendemain de ma libération, où j'étais en liberté, j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé dans le domaine de la publicité. Donc, j'étais en contact avec la clientèle pour faire un petit peu de pouce sur votre introduction. Par la suite, j'ai travaillé à contrat pour le Service correctionnel du Canada. Donc, j'étais en relation d'aide avec des gens qui étaient incarcérés pour des longues périodes. Par la suite, j'ai travaillé en itinérance avec des Autochtones en situation d'itinérance et par la suite avec une grande organisation à Montréal, pour pas la nommer, Mission Burrow, où j'ai été conseiller en intervention auprès de cette clientèle-là. Et je suis depuis un an coordonnateur de la société John Howard du Québec, qui a implanté un programme au Québec qui s'appelle le programme Chez nous. On vient en aide principalement à des gens qui ont connu des périodes d'incarcération, là, qui ont passé judiciarisé et qui sont à risque ou qui sont en situation d'itinérance. Parce que souvent, les gens qui vont sortir de prison, ben ils vont se retrouver dans la rue parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de travail. Puis souvent, malheureusement, ils vont retourner en prison, puis ils vont retourner dans la rue, puis ils vont retourner en prison. Puis ça peut durer pendant des années, ce cycle-là.
Votre processus, vous, M. Benson, de réinsertion sociale, de réhabilitation, est-ce qu'il a commencé à l'intérieur des murs de la prison avant votre... Si vous avez commencé à travailler au jour 1, je présume que vous avez fait du travail avant d'être libéré.
Oui, bien évidemment, vous savez, une réinsertion sociale, c'est pas quelque chose qu'on commence la journée où on sort de prison. C'est quelque chose qui se prépare longtemps d'avance. Il faut se donner des outils pour ça. Moi, pendant que j'étais incarcéré, ben, j'ai terminé mes études collégiales, j'ai fait des études universitaires. Donc, je suis arrivé avec un bagage, là, au moins scolaire, là, en communauté, qui m'a permis de travailler puis de me réinsérer. Mais le problème aujourd'hui, c'est que ce genre de programme-là, dans les établissements correctionnels, autant fédéral que provincial, ont été beaucoup coupés. Donc, il y a plus beaucoup de possibilités pour les personnes incarcérées d'acquérir des compétences pendant le temps qu'ils sont incarcérés pour pouvoir les mettre à profit pour la société quand ils sortent de prison.
Est-ce que dans le monde carcéral, quand vous y avez été dedans, vous avez participé à votre réintégration sociale et tout ça, il y a quand même une réalité qu'il y a des personnages qui sont spéciaux. Donc, autrement dit, on peut pas mettre tout le monde dans le panier, il est dans le même panier. Il y a des gens qui sont récupérables et qui sont des belles histoires comme la vôtre, puis il y en a d'autres que tabarouette, on les placerait même pas d'une shop. Alors, comment qu'on fait pour séparer ceux qui sont reprenables et ceux qui ne le sont pas au niveau de l'emploi?
Ben, je vous dirais, dans un premier temps, que la très, très grande majorité des gens qui sont dans nos institutions carcérales sont des gens qu'on peut réhabiliter dans notre société, qui vont reprendre leur place. C'est sûr que je vous rejoins, là, quelque part, il y a une minorité de gens dans nos institutions qui sont des gens qui sont dangereux, puis c'est pas juste lié à leur personne, à leur en tant qu'humain, là, c'est souvent des gens qui ont soit des problèmes de santé mentale ou des problèmes de comportement très élevés. Par contre, je vous dirais, moi, que, vous savez, puis c'est dommage parce que ce que les gens entendent du monde carcéral, c'est juste les histoires d'échecs. Ils n'entendent pas parler des histoires de succès. Puis pourtant, des histoires de succès, il y en a beaucoup, beaucoup plus que des histoires d'échecs.
Oui, mais ce que je veux dire avec ça, c'est que, tu sais, des fois, puis c'est peut-être le cinéma qui nous amène à penser ça, mais on pensait à un moment donné que la réintégration sociale des détenus, là, c'était tout le temps la même affaire. Tous des gars qui sont en prison, qui tripent sur remonter des chars, je sais pas pourquoi il y a des ateliers de chars dans les prisons, puis on dit, ils peuvent réintégrer la société, mais ça va être systématiquement dans un garage. Moi, ce que je veux voir, c'est d'aller plus loin que ça, de dire, y a-tu des gens, des gars, des femmes qui sortent de prison, qui peuvent être au service à la clientèle, qui peuvent être des gens avec des postes de direction, des gens qui peuvent devenir des ambassadeurs pour des compagnies et non pas juste des gars qui changent des catalyseurs dans un body shop en arrière de l'usine?
Ben, écoutez, j'ai peut-être deux, trois exemples pour vous. Là.
Oui.
Moi, il y a quelques mois, je m'en vais à la pharmacie près de chez moi. Puis moi, j'ai travaillé avec les femmes au pénitentiaire de Joliette. Donc, je m'en vais à la pharmacie puis je cherchais quelque chose que je ne trouvais pas. Donc, je demande à une commis qui est dos à moi. Là. Je ne la vois pas. Là. Donc, je lui demande, hey, madame, pouvez-vous m'aider? Et quand elle s'est tournée de bord, ben, c'était une fille que j'avais eue comme cliente quand je travaillais au pénitencier.
Ah ouais.
Donc cette fille-là, elle était réinsérée, elle travaillait dans une pharmacie, là, donc elle était en contact avec les gens. Puis je vous dirais que moi, je connais personnellement là 4 ou 5 personnes qui sont aujourd'hui dans des postes de relations d'aide dans des institutions. Donc des gens qui sont en contact direct, qui aident les autres personnes à s'améliorer dans leur vie. Donc vous savez, c'est sûr que la télé, le cinéma envoient une image là, qu'un gars de prison, c'est un gars qui est tatoué, les cheveux longs, puis il veut mordre tout le monde. Là. Mais ça, c'est une minorité de gens qui sont en prison, qui ont cette allure-là. La majorité. Vous savez, les gens en prison, là, fondamentalement, c'est des gens qui étaient vos voisins. Puis si on veut, parce que vous savez, la grande majorité des gens, là, à 98,9% des gens, là, ils vont tous ressortir de prison un jour. Puis, c'est quelque part, c'est la société qui doit décider si on aide ces gens-là à se réintégrer en leur donnant un emploi puis en les laissant refaire leur vie, ou on les ostracise pendant toute leur vie, puis ils vont être, ben s'ils se trouvent pas d'emploi, ils vont faire quoi? Ils vont être sur l'aide sociale. Donc, ils vont être au crochet de la société. Écoutez, moi, hier, là, il y a quelqu'un qui m'a appelé, puis malheureusement, je peux pas vous le nommer, là, parce que je lui ai pas dit, je faisais un entrevue à la radio aujourd'hui, mais c'est un dirigeant d'une grande entreprise québécoise qui m'a contacté, puis qui m'a dit, écoutez, monsieur, moi, j'ai engagé quelqu'un qui était dans vos services de la société John Howard, puis j'ai écouté, c'est un excellent employé, pourriez-vous m'en référer d'autres, parce que je manque de personnel?
Ben c'est ça. Quand on regarde la statistique, c'est frappant. 74% des entreprises au Saguenay-Lac-Saint-Jean disent qu'on a un gros défi de main-d'œuvre, mais on est meilleur que la moyenne québécoise, mais c'est seulement 39% quand même des employeurs qui disent « moi, je suis prêt », puis encore là, ça dépend de la nature du crime commis. Là, tu sais, il y a des crimes, les crimes sexuels, c'est sûr que c'est très mal vu, ils veulent pas, j'imagine, que la clientèle soit au courant de ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous avez commis un crime grave, de voir un employeur dire « non, moi, c'est sûr que je te veux pas parce que c'est trop mal perçu ».
Ben, dans un premier temps, je vais vous dire que dans le sondage, là, ce chiffre-là vous a peut-être échappé, là, mais les entreprises qui ont engagé des personnes avec un passé judiciarisé, le taux de satisfaction à l'égard de ces employeurs est de 89%. Donc, c'est quand même considérable. Là, puis je pense que ça se compare à quelqu'un qui n'a pas un passé judiciarisé au niveau de la satisfaction des employeurs. Et, vous savez, les gouvernements, là, que ce soit les gouvernements provinciaux, fédéraux, municipaux, ont tous dans leur discours qu'ils sont pour ça, la réinsertion sociale. Puis il faut réintégrer les gens quand ils sortent de prison, parce qu'il faut qu'ils redeviennent des citoyens qui contribuent à la société, qui payent des impôts. Mais en même temps, écoutez, moi, il y a 2 ou 3 ans, je vois une offre d'emploi, c'est une organisation qui ouvrait des maisons pour des jeunes qui sortent de la DPJ. Donc, vous savez, parce qu'à 18 ans, il est dehors, là, puis il n'y a pas comme de période tampon entre la sortie de la DPJ puis le retour en communauté. Donc, souvent, ces jeunes-là se retrouvent en situation d'itinérance parce qu'ils n'ont pas de place à aller. Donc, il y aurait deux maisons de transition là, pour les jeunes qui sortent de la DPJ, le temps qu'ils se remettent sur pied puis qu'ils s'en aillent sur leur route. Là. Et j'envoie mon CV. Évidemment, dans mon CV, c'est pas écrit que j'ai fait de la prison. On n'écrit pas ça dans un CV. Mais j'ai quand même un bon CV parce que j'ai beaucoup d'expérience puis j'ai fait plein de choses dans ma vie. Et je reçois un téléphone un dimanche. C'est rare qu'un employeur nous rappelle un dimanche matin. Oui. Là. Donc, c'est une femme qui me rappelle. Elle me dit, Monsieur Benson, j'ai reçu votre CV. Elle dit, vous êtes l'homme de la situation. Moi, j'ai deux maisons. Je rouvre deux maisons. Là, puis j'ai besoin de deux directeurs. Puis vous choisissez la maison que vous voulez. C'est OK. Puis, mais elle dit, par contre, elle dit, faut que je vous rencontre pour une entrevue formelle. Donc, je me présente à un rendez-vous le mardi. On fait une longue entrevue, puis la madame m'a dit, écoutez, M. Benson, avec votre expérience de travail, puis tout ça, vous allez pouvoir vous occuper de ces jeunes-là, puis vous allez pouvoir vous occuper du personnel d'une façon extrêmement convenable à cause de votre bagage d'expérience. Et à la fin de l'entrevue, la dernière question de l'entrevue, est-ce que vous avez un dossier criminel? J'ai dit oui, puis j'explique le contexte de mon dossier criminel. Et à ce moment-là, elle me dit, malheureusement, je ne pourrais pas vous engager, monsieur, avec grand regret. Parce que le contrat qui me lie avec le CIUS m'empêche d'engager des gens qui ont un dossier criminel. Donc, à la fois, il y a un discours de la part du gouvernement qui dit qu'il faut que ces gens-là se réinsèrent, mais je défie n'importe quelle personne qui a un dossier criminel d'aller appliquer à la fonction publique. Il n'aura pas la job. Donc, il y a un problème d'arrimage entre le discours et la réalité. Puis, vous savez, une personne qui a un passé judiciarisé, là, ça peut être quelqu'un qui a eu un ivresse au volant. Là.
Effectivement, ça peut être une question de petite possession à l'époque, de cigarettes de contrebande.
Le taux que vous donniez de personnes qui ont un dossier criminel, là, c'est pas tous des violeurs, des meurtriers, ces gens-là.
On s'entend.
C'est des gens qui ont eu des petites infractions, des fois des erreurs, là, quand tu as 18-19 ans, tu as arrêté avec du cannabis. C'est un dossier criminel, puis ça va tuer toute ta vie. Donc, est-ce que c'est une raison que quelqu'un a fait une erreur dans sa vie, qui s'est repris en main, qui a travaillé sur lui, qui veut se réinsérer dans la société, qu'on lui donne pas la chance de travailler?
Mais est-ce que ça vous surprend de voir que, puis là, on voyait que notre région est plus ouverte à ça, mais que ce soit quand même juste 39 % des employeurs qui sont ouverts à l'idée?
Bien, écoute, premièrement, ça m'étonne pas vraiment, parce que vous savez, quand on est un propriétaire d'une entreprise, ben on veut faire des affaires, on veut faire de l'argent. Puis on veut surtout que notre entreprise aille une bonne réputation. Si moi, je me mets à dire à tout le monde, le monsieur qui m'a appelé tantôt de la grande entreprise, là, qui m'a appelé hier, là, si je me mets à répandre le nom de son entreprise sans lui avoir demandé avant, il sera peut-être pas content. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, oh, OK, moi, je ne ferai plus affaire avec cette entreprise-là parce que eux autres, ils engagent du monde qui ont fait de la prison. Parce que c'est tout le préjugé des gens là qui viennent en ligne de compte. Puis des fois, c'est même pas justifié. C'est juste, il y a un dossier criminel, je veux pas y parler. Ben, vous passez peut-être à côté d'une bonne personne qui pourrait peut-être vous aider dans la vie. Mais ça fait partie de l'éducation qu'on doit faire auprès des gens. Vous savez, moi, je fais des conférences là, depuis une vingtaine d'années là, dans les écoles, puis tout ça. Puis je raconte mon histoire, là. Puis ça m'est arrivé une fois qu'il y a une étudiante qui est venue me voir à la fin de ma conférence qui m'a dit, Monsieur Benson, moi, je vous crois pas que vous avez fait de la prison. Il a fallu que je monte ma carte de libération conditionnelle. C'est pas écrit dans la face de personne. Puis, vous savez, les entrepreneurs aujourd'hui là, qui ont des employés, là, moi, je suis persuadé qu'il y a beaucoup d'employeurs aujourd'hui qui ont des gens qui travaillent pour eux, qui ont un dossier criminel et qui ne le savent pas. Parce que si on n'a jamais demandé à la personne dans l'entrevue, si on ne l'a pas posé la question sur le formulaire d'embauche, on ne le sait pas. Et à ce moment-là, on n'a pas cette optique-là quand on examine la candidature de la personne. Si on dirait, on n'en a plus cette question-là, puis on engage en fonction des compétences puis de ce que la personne peut nous apporter, peut-être que les chiffres seraient différents.
Bien, on vous remercie beaucoup. Je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent présentement. Je reçois plein de commentaires, des gens qui engagent des ex-détenus et tout ça. En général, ça se passe bien. Je pense que les parcours inspirants, les parcours d'histoire à succès doivent continuer d'être véhiculés. Donc, que ce soit vous, puis je vous dis de ne pas lâcher, puis également d'autres auditeurs qui sont à l'écoute, puis qui auraient peut-être tendance à désespérer dans leur réhabilitation, puis dans leur recherche d'un emploi qui est valorisant. Pas d'accepter tout et n'importe quoi au nom de la réhabilitation, mais de se trouver une job qui leur plaît, puis qui leur permet de s'accomplir. Ben, je vous dis de ne pas lâcher, puis c'est intéressant votre témoignage.
Oui, puis j'invite les, si vous me permettez, j'invite les employeurs à garder les compétences de la personne au lieu de son puis les erreurs qu'il a pu faire, parce que tout le monde en a fait des erreurs dans ça.
Merci beaucoup.
Merci, bonne journée.
Au revoir. Daniel Benson, qui est un ex-détenu, qui nous a expliqué son propre parcours, puis ce qu'il a déjà vécu comme refus en raison de son casier judiciaire. C'est sûr que lui, en étant universitaire, parce qu'il a fait ses études, c'est des domaines qui sont plus spécialisés, mais les demandes, les besoins de main-d'œuvre actuellement, il y en a partout.
Ben, dans le domaine,
dans le commerce au détail, par exemple, là, ils peuvent pas vraiment se priver d'employés, mais malgré tout, dans le sondage léger qui n'avait pas un très grand échantillon pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, on parle d'une cinquantaine d'entreprises, mais quand même, sur une cinquantaine d'entreprises, 39% qui étaient ouverts, ça en fait beaucoup, ceux qui sont prêts à se priver d'une bonne main-d'œuvre qui représente 14% de la population québécoise. Par peur de soit de préjugés, par peur de réaction de la clientèle. Et peut-être que, comme il disait, tu sais, il y a tellement de variations entre les personnes judiciarisées de par l'infraction qu'ils ont commis que instinctivement l'employeur se dit ah, ben là, c'est sûr que moi, ça dépend c'est quoi aussi, là, tu sais.
Il y a des distincts. Dans le cas de monsieur qui en a parlé, on parle quand même d'homicide, mais tu sais, il y a des gens qui n'auront aucun problème à engager quelqu'un qui a déjà eu une balloune il y a 15 ans en disant c'est une erreur de passage, là, puis on parle pas d'un criminel à notoire à temps plein. Mais si on parle de quelqu'un qui a de multiples antécédents en matière de voies de fait, de violence conjugale, engagerais-tu quelqu'un qui était coupable de fraude dans ton entreprise?
Dans l'entreprise. Tout dépend de l'entreprise.
T'sais, quelqu'un qui est coupable de fraude puis dit « je me réhabilite », ouais, mais t'as un problème de gambling, t'as un problème de fraude, je peux pas te laisser ma caisse en avant de toi. C'est vrai, moi, pour moi, là, je suis extrêmement ouvert à ça, mais je suis en pleine honnêteté, ce serait du cas par cas, et j'aurais besoin, en sachant que la personne a fait du temps, de son dossier complet, avec une transparence totale.
Il y a des métiers, c'est clair, de toute façon, t'sais, tu peux pas refuser quelqu'un qui a un casier judiciaire, bon, les entourloupes qui peuvent se faire pour torser des CV, on s'entend, mais tu sais, un chauffeur d'autobus scolaire, un pédophile, on s'entend qu'il n'y a aucune logique là.
Non, puis s'il y a deux ballons, on ne peut pas non plus. Par contre, dans plusieurs. Je crois sincèrement qu'on doit avoir une meilleure ouverture, mais il faut y aller avec une transparence totale. Tu sais, et dans le domaine carcéral, il ne faut pas oublier une chose. Il y a des gens qui ont fait des erreurs, qui sont presque réhabilités, mais oui, il y a des gens qui ont des problématiques de santé mentale. Oui, il y a des gens qui ont des problématiques sociétales avec l'interaction avec les gens. T'sais, c'est une réalité aussi. Tu peux pas battre quelqu'un. T'sais, faut pas regarder les tatous, mais s'il y a des tatous d'en face, dans certains cas, ça se peut que tu vas passer outre. Il y a un gars qui m'écrit à l'instant, il est propriétaire d'entreprise, il dit « Moi, j'engage chaque année des ex-détenus. Ils sont très vaillants et également, ils connaissent le respect, la hiérarchie, tout ça. » Tant mieux. Mais est-ce que tu vas systématiquement y offrir la comptabilité de ton entreprise? Je le sais pas. Est-ce que tu vas le mettre sur les posters de ton entreprise? Je le sais pas.
Parmi les employeurs qui étaient ouverts à l'idée, ben ça dépendait de la nature de l'infraction. Ça dépendait également du poste que tu veux.
Ah oui, totalement. Faut être honnête.
Tu veux lui offrir, dépendamment de cette infraction-là aussi. Hein? 13h03.
On revient tout de suite après la pause. 95.7 Kick. Saguenay. Midi pile.